Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On va maintenant revenir sur nos propres histoires maintenant, parce qu'on va profiter de l'expert qui est là, c'est quand même pas tous les jours. Et en fait, il y a quelques histoires dont on a parlé, dont on n'a pas parlé, des trucs juridiques qui nous concernent, nous, sur lesquels on va pouvoir revenir maintenant. C'est parti.
C'est toi.
C'est ça. On a un juriste sur le plateau. Donc il faut préciser d'ailleurs, tu n'es pas avocat directement.
Non, je suis universitaire, hein, je suis en amont de la chaîne de fabrication, c'est moi qui fabrique les avocats, les magistrats.
Et donc tu parles de tout ton savoir sur ta chaîne YouTube, comme on l'a dit tout à l'heure, et on voulait en profiter pour t'exposer un peu nos aventures juridiques à nous, qu'on a pu avoir au cours de notre histoire finalement. C'est un moyen d'avoir des conseils gratuits d'un juriste. C'est bête, mais c'est pas tous les jours. Hein. C'est un budget quand même, hein, souvent les conseils juridiques.
Oui, j'imagine. Je serais sans doute beaucoup plus riche si j'étais devenu avocat au conseil juridique.
C'est ça. Du coup, c'est là où on est malin finalement sur nos invités. Depuis le temps que je suis sur YouTube, j'ai été mêlé à quelques histoires juridiques. Certaines honnêtement assez scandaleuses, notamment un truc avec Google. Mais vous allez voir, on va pas se laisser faire. On a préparé des petits trucs. Et je vous propose de commencer quand même dans l'ordre, dans la chronologie, avec la première histoire, qui est l'affaire Emma Cakeup, qui ressemble un peu à la tienne en vrai. D'abord.
Ok, vas-y, je suis curieux, je la connais pas. Hein.
Ouais, alors c'est un vieux truc en vrai, hein. C'était en 2017-2018, mais c'est la première fois où moi, bébé youtubeur, je suis confronté au monde juridique.
D'accord.
Et à ce phénomène que tu as décrit, qui est celui de recevoir une lettre de mise en demeure. Donc c'est la première fois que bébé Micode reçoit sa lettre de mise en demeure et qu'il panique totalement devant un truc qui ressemble à du jargon juridique. Contexte. C'est une époque où on commence à découvrir le game du dropshipping et le fait qu'il y a un maximum de gens qui font du dropshipping, qui travaillent avec des youtubeurs et des youtubeuses, soit de télé-réalité, soit affiliés. Et donc Madame Emma Cakeup ainsi que son copain faisaient partie de cet écosystème-là et se sont mis à faire des publicités pour des trucs de dropshipping. Moi, à ce moment-là, je réagis dans une vidéo qui parle de globalement des arnaques qui ont lieu pendant la période du Black Friday. C'est une période que les arnaqueurs raffolent puisque les gens sont un peu fous avec leurs cartes et donc c'est un bon moment finalement pour faire des petites arnaques. Donc je parle de plusieurs choses, notamment des sites qui avait été mise en avant par ces influenceurs. Il se trouve que ces sites étaient vraiment particulièrement bizarres et border. Il y avait plein de problèmes juridiques, il manquait plein de choses. Il y avait des affirmations qui étaient totalement fausses sur le site, comme le fait que c'était des montres faites en Suisse alors que c'était des vieux trucs à AliExpress. Mmh. Enfin voilà, depuis, le monde a découvert le principe du dropshipping et de vendre 400 balles, un truc qui en vaut 2 sur AliExpress. Mais à l'époque, c'était assez nouveau. Et donc, j'avais fait une vidéo pour mettre en avant le fait que ces produits étaient clairement, on peut le dire honnêtement, des arnaques. Que les influenceurs soient au courant ou pas de ce dont ils faisaient la promotion, ça, je ne m'avançais pas dessus. Mais voilà. Et donc, ça leur a pas plu. Clairement, le fait que je mette le doigt sur ce truc leur a pas plu. Et donc, je me suis pris des lettres de mise en demeure qui me demandaient à tout prix de retirer mes vidéos. Ce que je n'ai pas fait. Comme toi. Donc, okay. Donc voilà. Honnêtement, je me mets vraiment à ta place. Je comprends très bien la situation où t'es. Parce que j'avais quand même un peu hésité, c'est pour ça que je t'ai demandé aussi, c'est que j'ai un peu hésité, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de me lancer dans des emmerdes avec des trucs juridiques, des procès, tout. J'ai trop la flemme pour une petite vidéo. Mais j'ai pris conseil, j'ai demandé des conseils notamment au roi des rats.
Ok, qui lui doit bien.
Exactement.
Le Élise lui cède.
Voilà, je savais qu'il avait déjà eu besoin de conseils juridiques, etc. Okay. Donc il me donne gentiment le conseil d'une avocate avec qui je m'entretiens et qui me conseille de ne pas retirer la vidéo et qui fait une lettre de réponse oui. bonne et due forme, que j'ai fini par retrouver en plus. Donc, ça, c'était l'épisode des commentaires de Emma Kickup. Et ça, c'était la réponse que m'a fournie l'avocate et que j'ai transmise gentiment aux avocats de Emma Kickup et Vlad Oltean. Et en vrai, j'étais content d'avoir du soutien, même psychologique.
Bien sûr, bien sûr.
De se dire...
C'est la meilleure des choses, ouais. de montrer qu'on n'a pas peur et qu'on sait aussi contacter un avocat, répondre dans les formes. C'est la meilleure des choses à faire.
C'est ça. Et on sous-estime vraiment cet aspect purement mental, qui est d'avoir un peu, voilà, de se dire qu'on n'est pas tout seul, quoi. Et donc, on a attendu, en croisant les doigts, qu'il n'y a rien qui se passe. Et heureusement, il n'y a pas eu de suite dans mon cas. Mais ce n'était pas le cas d'autres petits youtubeurs. Encore une fois, ça ressemble beaucoup, qui, eux, ont reçu pareil des lettres de mise en demeure.
Parce que d'autres youtubeurs qui avaient parlé du sujet.
Exactement.
D'accord, ok.
Donc, des plus petits youtubeurs qui avaient mentionné ça. Alors peut-être qu'ils avaient été moins prudents dans les formulations, parce que c'était une époque où on faisait déjà un peu attention à mettre des conditionnels, voilà, tout ça. J'espère qu'on l'a bien fait dans cette émission, d'ailleurs. Et donc on a heureusement pas eu de suite. Mais alors, elle va savoir pourquoi, elle a quand même décidé, tout comme Michigan, d'aller en procès avec ces petits youtubeurs, malgré le fait qu'ils aient supprimé leur vidéo.
Et pas comme toi.
Pas contre moi. Je pense qu'il y avait peut-être moins de matière à batailler. Elle est allée en procès, ça a fait un boucan pas possible, donc encore un effet stressant monumental et une attention portée autour de cette affaire décuplée par rapport à ce qui se serait passé si elle avait rien dit. Et donc, ils sont allés en procès. Elle a perdu, évidemment.
Ah ouais, d'accord.
Bah oui. Et donc voilà. Alors, elle a perdu ou elle s'est retirée? Je sais plus.
Elle s'est désistée?
Ouais.
C'est une question.
Mais je sais, l'un ou l'autre.
Oui, on peut se désister.
On peut se désister d'un procès.
On peut se désister, tout à fait.
Mais j'imagine qu'on a quand même des... Bah, on paye des frais juridiques, etc.
Alors, tu payes tes frais d'avocat quand tu désistes. Mais c'est possible. Et en règle générale, ce n'est pas très très bon signe pour la personne qui s'est désistée. Soit c'est à la suite d'une transaction qui s'est faite hors l'avis du juge, soit spontanément, quand l'avocat dit « Bon, vous savez, je ne la sens pas, votre affaire. À mon avis, vous avez agi un petit peu rapidement, peut-être. »
Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ça s'est fait si tard. Parce que le fait qu'elle ait aucune chance de gagner, pour moi, ils auraient pu s'en rendre compte beaucoup plus tôt, quoi.
Ah mais moi, j'ai vu des fois des d'anciens étudiants devenus avocats ou magistrats qui me disent, mais des fois, on voit des désistements la veille de l'audience.
C'est marrant. C'est qu'ils ont les pépettes, quoi.
Oui, c'est la guerre des nerfs. Il faut avoir les nerfs un petit peu bien accrochés. C'est bien que tous les deux, chacun dans votre cas, vous ayez résisté. Parce que la liberté d'expression, c'est quelque chose d'important.
Et ça, c'est beau.
J'aurais préféré un procès d'Emma Kickup, je crois.
Oui, peut-être, ça aurait duré moins longtemps.
Elle m'est plus sympathique.
Non, c'est vrai, en plus. Non, mais oui. C'est ça. Et moi, je précise comme toi que j'avais absolument aucune animosité contre personne.
Bien, mais moi non plus, oui, c'est bien ça.
C'était juste histoire de mentionner des faits, quoi, finalement. D'ailleurs, j'ai une question très précise et je veux profiter de ce moment pour te la poser. Je me suis demandé, ok, j'ai reçu une lettre de mise en demeure. J'étais pas là, j'étais pas présent au moment où je l'ai reçu. Donc c'est un courrier recommandé qu'il faut signer. J'étais pas là, donc ça a été envoyé à la poste, etc. Une question que je me suis dit, c'est est-ce que je peux ne pas aller la chercher? Genre, qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas la chercher, tu vois?
Ah mais tu peux, mais tu es censé l'avoir lu.
Ah.
Voilà. Donc, à l'exception, il y a quelques rares exceptions. Mais le principe, c'est quand on reçoit une lettre recommandée, allez la chercher. Vous ne risquez pratiquement rien. Il y a quelques cas, par exemple... Le propriétaire qui veut foutre un locataire commerçant à la porte, il ne peut pas le virer simplement avec une lettre recommandée que la personne n'est pas allée chercher. C'est l'exception. Si vous avez vous recevez une lettre recommandée, vous allez la chercher, vous ne risquez rien à aller la chercher. Vous avez des risques à ne pas aller la chercher parce que vous pouvez bouffer un délai. Vous pouvez bouffer un délai de recours, par exemple. Hein, souvent, mes étudiants me le disent régulièrement, ils ont le pied un petit peu lourd sur l'accélérateur. Ah, je ne vais pas chercher la lettre de suspension. Ça ne sert à rien. Et en plus, il ne peut plus contester la suspension. Donc, la réponse est claire.
Bah, je te remercie.
Mais va chercher ton courrier. Tu vas à ta boîte aux lettres.
T'as déjà eu d'autres affaires juridiques, toi, dans ce style un peu? Autre que ça?
Dans ce style, pas du tout. Après, il m'est arrivé un petit truc rigolo une fois. Je raconte ou pas?
Ah ouais, bah, c'est moi qui te lance. Ouais,
C'était une fois, c'est la seule fois où j'ai eu affaire à la justice de ma vie. J'étais parti, je faisais des études d'hôtellerie et j'étais parti en stage en Angleterre. Et c'était un stage de 4 mois pendant l'été. Et à un moment, je reçois... Enfin, je consulte mon compte en banque, tu vois, pour regarder mes énormes finances de l'époque. Et je vois moins 1000 euros tout rond. Et je me dis, c'est bizarre. J'ai pas eu de dépenses qui correspondent à ça. En plus, j'étais vraiment à l'étranger, donc ça aurait même pas été en euros, tu vois. Bon, c'est curieux, quoi. Je demande à ma banque ce que c'est. Ils me disent, bah, si, c'est un chèque qui a été encaissé. Je dis, OK, ça me paraît bizarre. Je vois vraiment pas à quoi. Bon, des fois, on fait des trucs, on se rappelle plus. J'ai dit, est-ce que je pourrais avoir la copie du chèque? Parce que la banque est censée garder une copie du chèque pendant un certain délai, etc. Ça prend un peu de temps, mais la banque finit par m'envoyer un scan du chèque qu'ils avaient gardé. Et je dis, ah oui, mais ça, c'est pas mon écriture, c'est pas ma signature. Donc, je fais, je sais pas comment on dit, je sais pas, une espèce d'opposition.
What the fuck?
De quoi?
Donc, quelqu'un a signé pour toi?
Le chèque, c'était un vrai chèque, mais il y avait écrit 1000 euros et c'était pas ma signature. Tu vois. Trop bizarre, alors que j'étais même pas chez moi. Et du coup, la banque accepte, elle bronche pas, il me rembourse. Donc, bon, à ce niveau-là, je m'en sors bien, mais je vais quand même porter plainte quand je rentre en France. Oui, il faut, voilà. Et vraiment là, je crois qu'il y a quasiment un an qui se passe. Et un jour, on me rappelle. C'est, oui, bonjour, c'est la brigade, j'habitais à Lyon à l'époque, c'est la brigade des finances, je sais plus comment on dit, enfin, le truc, des affaires de pognon. Ouais. Ouais, voilà, brigade des finances de Lyon. On a retrouvé la personne qui vous a, a volé votre chèque. Je dis c'est qui, on me balance un nom, alors évidemment ça me dit rien du tout. Ils me disent bah voilà, cette personne sera convoquée au tribunal de proximité à telle date, vous pouvez venir ou pas, mais cette personne sera jugée. Moi je suis un petit curieux, je me dis allez, j'y vais. Tribunal de proximité, c'est du coup, c'est pas les grandes et belles salles, c'était vraiment une salle,
c'était un bureau.
Oui, c'était un bureau avec un tréteau et un juge, et puis t'avais bon, voilà. J'arrive au tribunal, c'était vers Villeurbanne, qui est une ville qui touche Lyon. J'arrive, donc il y a un juge qui est sur son petit bureau là, et puis il y a un gars qui rentre en même temps que moi avec des papiers et tout, propre sur lui, etc. Du coup, je comprends que c'était lui.
On le s'assoit. Faussaire.
Le faussaire. Le juge lui rappelle les faits, lui dit donc voilà, vous êtes accusé d'avoir volé et encaissé un faux chèque qui appartenait à monsieur Berru, c'est donc moi-même. Le mec, il dit, il ne cherche pas du tout à nier, il dit oui, c'est vrai. Je regrette beaucoup. Regardez, il avait sorti un dossier. Voilà des fiches de paye. J'ai trouvé un emploi. Je suis vraiment désolé. Je suis conscient que c'était pas bien. Je le referai pas, etc.
Mais pourquoi toi? Pourquoi c'est arrivé à toi?
Attends.
Pardon.
Et alors, la juge me demande, est-ce que monsieur Berru, est-ce que vous lui demandez des dommages et intérêts ou quoi que ce soit? Le mec m'avait l'air vraiment sincère, même assez sympa. Je dis, bah, non, franchement, si monsieur regrette, restons-en là. Et puis voilà, quoi. Mais je lui fais une petite blague, je lui dis, tu le refais pas. Hein. Bref, il dit, ouais, non, pas de problème. La juge dit, ok, bon, bah, affaire classée. Donc lui, il aura rien. Ouais. Et moi, je sais qui c'est. C'était le mec qui était en face de moi. On sort du tribunal. Moi, je commence à partir. Le mec fait, attends, viens, ça te dit pas d'aller boire un verre? Je dis, bah, non, c'est chelou. Mais je reste quand même un peu discuté avec lui. Ouais. Et le mec me dit, écoute, merci beaucoup de pas avoir enfoncé le clou, de pas avoir demandé des trucs. Je te le dis, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon petit frère qui sortait de tôle déjà et qui est donc
mais non,
si j'y allais pas à sa place, lui pour le coup il risquait de... enfin en tout cas il avait déjà fait des trucs et si
mais il
si,
avait peut-être du sursis, le sursis
oui voilà c'est ça, en gros il allait en tôle direct si il se trouvait que c'était lui, donc le grand frère y était allé pour son petit frère. Et il me dit en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais des colocs à l'époque et le petit frère s'était retrouvé à une soirée, c'était un pote de pote de pote qui avait organisé mon coloc, il était allé dans ma chambre et il avait piqué un chèque en blanc, du coup j'avais laissé mon chéquier, c'était mes affaires, je pensais pas qu'il y aurait des gens, des inconnus qui iraient chez moi, mais bon bref, il avait arraché un chèque, il l'avait encaissé, il avait demandé à une nana de l'encaisser à sa place, mais évidemment quand t'as la brigade des finances qui t'appelle, bah tu dis oui, bah en fait non, c'est ce mec là qui m'a demandé. Ils sont retombés sur lui.
C'est
improbable. Et lui a dû demander à son frère, vas-y à ma place, je t'en supplie, sinon je risque la tôle. Donc voilà, j'ai pas eu de regrets parce que d'avoir pas demandé plus, et je lui ai dit, bah franchement, fais bien la morale à ton frère quand même, parce que bon, que ça serve de leçon à toute la famille, parce que bon, il m'a dit, ouais, t'inquiète, merci beaucoup. Et bon, voilà, l'histoire se termine là, mais c'était assez rigolo, quoi.
Incroyable. Ouais, franchement, elle est incroyable, cette
année. Elle est
bien. Ça tient assez courant, ça, les voleurs professionnels qui ne volaient que le dernier chèque. Et le temps que les gens s'aperçoivent que le dernier chèque du carnet a disparu, il s'est écoulé un certain temps. Et donc, c'était assez astucieux, mais maintenant, j'ai cru comprendre qu'il y a d'autres techniques nettement plus perfectionnées pour faire la même chose.
Ok. Eh ben, je ne savais pas. L'arnaque au chèque, ouais, c'est pas un truc dont j'avais peur. Bah, je crois que j'ai même pas checké.
En plus, c'est vraiment traçable. Je trouve ça un peu con. C'est vraiment traçable parce que tu l'encaisses sur un compte. T'as forcément. Mais bon.
J'y connais un gars qui a un homonyme qui le met dans la sauce. C'est fou ce genre de malentendu, j'avoue.
Ah, ça se produit, ça. Oui, ouais. Exact. Oui, bien sûr.
Putain, la justice, c'est quand même dingue. Ouais. En vrai, t'as...
Mais elle est rendue par des êtres humains qui sont faillis, mais la justice est faite pour essayer d'éviter l'erreur. Je parlais tout à l'heure de l'appel. Justement, le but, c'est qu'on ait le droit de, que notre affaire, aussi importante ou modeste soit-elle, soit examinée par deux juges différents successivement, sauf les toutes petites affaires.
Et je vous propose d'enchaîner avec la prochaine affaire qu'on a eue plus récemment. C'était l'année dernière, j'ai sorti une trilogie de vidéos sur des disques durs que je récupère voilà, sur le bon coin, le but étant de fouiller dedans, voir si, malencontreusement peut-être, les gens auraient oublié des dossiers personnels ou des photos et de voir s'ils effacent correctement leurs disques.
Ou des clés Bitcoin.
Ou des
qui
clés
valent
Bitcoin.
2 millions d'euros.
Au hasard, vraiment, au hasard. Bon, l'un d'entre eux appartenait à un hébergeur web, okay. Ce qui est complètement fou. Puisque normalement, un disque dur qui sort d'un hébergement, peut-être qu'il est en fin de vie, peu importe, il doit être détruit.
Le détruise, bien sûr.
Puisque dedans, c'est extrêmement sensible, il peut y avoir des données contre
les hébergeurs, c'est genre aussi.
C'est un data center.
Ah oui, d'accord, ok.
Ça doit être absolument détruit, puisqu'il peut y avoir des données clients sensibles.
Ok.
Une belle responsabilité professionnelle.
Exactement, ouais. Il ne faut surtout pas que ça se retrouve dans la nature. Et moi, je tombe comme ça dessus. Totalement au hasard, en achetant des disques durs sur le bon coin, si tu veux.
Okay.
Donc vraiment, le truc est totalement improbable. Je suis allé chercher, je sais plus, à l'autre bout de Paris, un inconnu qui me donne ça, un SSD, tu vois, tout seul. Vraiment très, très, très bizarre. J'ai anonymisé. Alors honnêtement, je suis même pas sûr que ça aurait été nécessaire, parce que je pense qu'un média journalistique l'aurait pas fait. Nous, on l'a fait, voilà, parce que je veux pas m'embêter avec ces trucs-là, en fait. C'est, mon propos, c'est pas de pointer du doigt un tel, c'était de faire un sujet là-dessus. Et voilà, et ils nous avaient contactés pendant la création des vidéos. Et autant au début, ils étaient assez gentils.
Attends, mais parce que t'avais trouvé quoi dessus ?
J'avais trouvé des données de clients.
D'accord, ok.
Alors, pas de trucs médicaux, graves, etc., mais quand même des données de clients, des mots de passe,
ouais, okay.
Des trucs assez privés.
Enfin, RGPD plus mot de passe. Quoi,
exactement, des accès à leur code, de la propriété intellectuelle.
Oui, d'accord. Okay.
Donc, des choses que tu n'aimes pas voir se balader. Tu vois.
Juridiquement, ils ont quand même une obligation de sécuriser ce genre de choses. Ouais. Et c'est un des cas de responsabilité au terme du RGPD.
Et du coup, autant au début avec moi, ils étaient relativement gentils, autant après, je me suis pris quelques petits coups de pression et tout. J'ai dû prendre un avocat pour que lui-même leur fasse des réponses détaillées. Ils m'ont donné une petite feuille pouvoir tester sur l'honneur des choses, etc. Et donc, en gros, il demande, je vous la résume en trois phrases, il demande à ce que j'atteste que je n'ai plus en ma possession le disque que je leur ai rendu, ce que j'ai fait immédiatement après que j'ai appris que c'était eux.
Parce que tu avais cité...
Non, justement.
Ils ont reconnu leur matériel.
Exactement, d'eux-mêmes, ils ont reconnu et je leur ai évidemment rendu le matériel immédiatement. Et après, ils ont voulu me faire signer des trucs, etc. Du coup, et puis après, ils m'ont envoyé des petits mails un peu pressurisants.
Ils t'ont quand même expliqué pourquoi leur matos se retrouvait sur le bon coin, parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de faute à eux, quand même.
Ouais, tu crois?
Ouais.
Ah
non,
ouais,
mais je veux dire.
Bah, totalement. Non, mais moi, je n'y suis pour rien sur
Oui, toi, tu prenais des disques un peu au pif.
La façon dont ils gèrent leur matériel, tu vois. Ouais. J'ai juste découvert ça totalement au hasard.
Je peux pas dire, mais j'ai déjà eu connaissance d'affaires comme ça. En règle générale, c'est les disques durs sont mis dans un endroit, ils vont être détruits, et puis un employé les pique et puis les revend pour se faire un petit peu de pognon.
Ouais.
En règle générale, c'est vraiment un dysfonctionnement de sécurité de la chaîne de destruction.
Et d'ailleurs, pendant une petite anecdote, pendant cette affaire, l'équipe était un peu tendue et à un moment, on a reçu un invité, Jean-Baptiste Kempf de VLC. Du coup, il s'est mis à nous donner des conseils en mode, les gars, si vous êtes perquisitionnés, du coup, il faut faire ça, ça et ça. Il faut mettre des petites étiquettes avec écrit propriété insaisissable. Et du coup, on a appris plein de choses, tu vois. Mais on était
juste
vraiment
un bout de scotch propriété insaisissable et personne ne peut le prendre.
Alors, à quoi ça sert de faire ça? Sébastien, tu vas pouvoir nous dire.
Je sais pas, c'est la première fois que j'entends dire
bon,
ça.
Alors, je donne du coup la théorie.
Il y a certaines choses qui sont pas saisissables, mais le fait de mettre un bout de scotch en disant que ça allait pas, bullshit.
Je te donne l'explication et tu vas me dire si ça a du sens. C'est que on est plusieurs colocataires, donc plusieurs entreprises.
D'accord.
Et si jamais il y avait une perquisition pour mon entreprise, par exemple, ou pour celle de Hardisk ou celle de Ajax qui sont mes colocataires, eh bien, souvent, ils sont pas finaux, ils embarquent tout. Et donc, pour
d'accord.
éviter ça,
je comprends mieux.
C'est conseillé de mettre un bout de papier avec écrit propriété insaisissable. C'est ce qu'il y a sur une Freebox, par exemple. Tu vois, il y aurait écrit propriété insaisissable de Free.
Oui, parce que tout le monde en a besoin.
Et donc, en fait, quand il y a une perquisition chez toi, ils peuvent emmener tout sauf la Freebox. Ils doivent aller, tu vois, il y a une perquisition, les flics arrivent chez toi. Il y a tout qui part sauf ta Freebox qui reste sur place.
Il y a un certain nombre de choses qui peuvent ne pas partir. On ne peut pas obliger quelqu'un à manger ou à dormir par terre. Donc si c'est en domicile, il faut qu'il te laisse une table, deux chaises, un lit. Et l'anecdote raconte que Jean-Pierre Mocky, qui est mort récemment, réalisateur, était un habitué des saisies et qu'il se débrouillait toujours pour avoir des trucs hors de prix mais absolument insaisissables.
il a fait quoi? Pardon, je...
Des trucs hors de prix, c'est-à-dire des meubles de style, de grand prix, mais on ne pouvait pas l'obliger à manger ou à dormir par terre, donc il n'était pas saisissable.
Elle vaut combien cette table?
Heureusement, on l'a fait avec trois vis et deux planches.
Ça se voit.
La qualité de cette émission. Mais alors, question bête du coup, mais est-ce que vraiment j'aurais pu, tu penses, on risquait vraiment une perquisition pour juste être tombé sur des trucs, tu vois?
Oui, juridiquement, c'était possible. C'était possible, ne serait-ce que pour avoir les preuves de l'existence de l'infraction qui a été commise, mais commise peut-être par la boîte en question.
Ah oui, moi je peux être perquisitionné pour une enquête sur quelqu'un d'autre.
Oui.
Ah, c'est pas très rassurant quand même.
Non.
J'aime pas les perquisitions, personnellement. Ouah, c'est ouf.
Nos domiciles sont protégés, puisqu'a priori, il faut quand même une certaine procédure, accepter la perquisition. Et si on la refuse, à ce moment-là, c'est un magistrat qui autorise, parce que le domicile privé, la perquisition ne peut avoir lieu que de 6h à 21h, sauf stup et quelques autres infractions. Okay.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Et donc la dernière histoire, qui est l'histoire qui engage nos amis de chez Google. Nous ne sommes pas contents. Sur une vidéo qui a très bien marché, d'ailleurs ça devait avoir 1 million de vues quand même, donc... Moi, j'y tiens, vidéo qui fait 1 million de vues. Ça s'appelait « Transformer Snapchat en espion ». Je l'avais fait avec Guillaume Slash, un autre YouTuber, il y a assez longtemps. Et à un moment, en fait, dans cette vidéo, je transforme l'APK, donc l'application de Snapchat, avec un cheval de Troie dedans. L'objectif, c'est de faire une démonstration, mais c'est ce que je fais régulièrement sur ma chaîne, de faire une démonstration de que peuvent faire les cybercriminels et les pirates et comment s'en prévenir. C'est tout le principe d'une bonne partie des vidéos de la chaîne, c'est de montrer, voici ce que font les cybercriminels, comprenez-le pour mieux vous en garder et je donne des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, quelles applications il ne faut pas installer sur son téléphone, etc. Et YouTube, trois ans après la sortie de cette vidéo, la supprime.
Ok.
Il la bloque en me disant, cette vidéo ne respecte pas les règles de la communauté. 3 ans plus tard, alors que je le rappelle vraiment, on peut scroller, on ne la verra pas.
et du coup, c'est pas résolu, quoi.
Elle a disparu de YouTube. Cette vidéo, dans laquelle je fais 100% de la prévention, où je ne montre aucune étape, parce que c'est ça qu'il faut préciser, c'est que je ne montre pas du tout d'étape.
Oui, tu montres le résultat.
Exactement, de comment recréer une application malveillante. Juste le résultat et ce qu'elle fait, tu vois. Et bien cette vidéo a été supprimée par YouTube, soi-disant parce qu'elle ne respecte pas les règles de la communauté. Sauf que ça fait chier, parce que moi j'aimais bien cette vidéo, et en plus je pense ne rien faire d'illégal dedans, j'ai tout à fait le droit selon la loi. J'ai donc décidé, à mon tour, d'attaquer Google et de leur envoyer une lettre de mise en demeure.
Ils ont dû se chier.
Voici ma lettre de mise en demeure, nous allons le faire, la poster après cette émission. Et est-ce que tu l'as... Je te l'ai fait relire juste avant.
Oui, tout à fait. Oui.
Et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est une lettre recommandée avec accusé de réception à destination de Sundar Pichai, patron de Google, rien que ça. Monsieur, en débit de moult relances infructueuses, je constate qu'à la date de la présente, à savoir le 8 mai 2022, ma vidéo que certains qualifieraient de chef-d'œuvre est toujours hors ligne. Sans aller jusque-là, je pense qu'elle mérite d'être montrée au monde. Au motif qu'elle est très intéressante. Blablabla, vous disposez pour cela d'un délai de 10 jours à compter de la date de ce courrier pour procéder à la mise en ligne du contenu vidéo mentionné. Dans le cas contraire, je m'autorise une action en justice je ne rigole pas. C'est écrit. On a écrit je ne rigole pas. Dans le but de vous éviter les poursuites judiciaires, un accord à l'amiable qui inclurait un dédommagement est possible. J'aime l'argent. Cet effort de ma part constitue ma dernière proposition avant le recours au tribunal compétent. Qu'est-ce que tu penses de ma petite lettre ?
Elle m'a beaucoup amusé. J'adore ce genre de troll. Je suis pas persuadé que ça leur fasse très peur. Hein. Ils risquent de te répondre un petit peu lol teki. Mais
c'est une réponse, ça va être marrant.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très très enquiquinant en tant que youtubeur. Et moi-même, j'ai commencé avec ma chaîne qui est nettement moins connue, importante que la tienne, à voir des vidéos non monétisées. On fait appel et elles sont remonétisées plus tard. Jusqu'à présent, on m'a pas encore supprimé de vidéos. Mais ce qui est absolument insupportable, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Et donc ça, il faudrait vraiment qu'ils se mettent à investir dans les sections nationales, ne serait-ce qu'ici en France, pour essayer d'entrer en contact un petit peu plus avec les youtubeurs et avoir
Explications.
Des explications qu'on comprenne. Parce que quand on se fait démonétiser, ça a dû t'arriver aussi, hein, j'imagine que c'est ton cas aussi, on aimerait au moins comprendre pourquoi et on ne le sait même pas.
Tu évalues à combien de pourcentage de chances de réussite ma lettre ?
Non, ça, je ne joue pas.
Un franc et massif, 2%. Ouais,
non, je suis un scientifique, je ne peux pas répondre à ça.
Merci beaucoup pour tes conseils, quand même. Et puis voilà, merci pour ces petits conseils juridiques, en vrai, sur nos activités passées. Ouais, j'en ai profité.